Ça, c'est le Los Mineros. C'est l'ancien bar des chercheurs d'or, le bordel et la prison.
C'est pas du vent.
Non, il n'y a pas de stress.
Il n'y a pas de stress. C'est intéressant.
C'est pas du vent.
Je sais.
Le magazine de l'environnement sur RFI. C'est pas du vent.
Reviens, reviens vers moi.
Anne-Cécile Bras.
Bonjour. Souvent citée en modèle au niveau international pour la préservation de son environnement, la stabilité de sa démocratie et la philosophie pour la vida de sa population, le Costa Rica est aussi observé pour son plan de décarbonation de son économie. Ce pays d'Amérique centrale, grand comme le Togo, se préoccupe de son impact sur l'environnement depuis les années 90. Son économie, basée essentiellement sur le tourisme et sur les services, n'émet que 0,4% des émissions de gaz à effet de serre mondial. Mais c'est un véritable laboratoire d'expérimentation, notamment pour les pays du Sud, comme nous l'expliquera Carlos Alvarado, son jeune président que nous avons pu rencontrer et que vous entendrez dans cette émission. Tout n'est pas parfait, bien sûr, dans ce pays de 5 millions d'habitants, mais si toutes les nations avaient les mêmes ambitions environnementales que le Costa Rica, l'avenir serein de l'humanité serait assuré. Dès 2007, le président Oscar Arias annonce que son pays sera neutre en carbone pour le bicentenaire de son indépendance en 2021. Cela implique de diminuer au maximum ses émissions et de compenser celles qui restent incompressibles pour arriver à un bilan net de zéro émission. C'est ça, la neutralité carbone. 2021, c'était ambitieux, mais cela a déterminé le principe de placer la protection de l'environnement au cœur de la politique économique du Costa Rica. Avec 97% d'énergie renouvelable et des forêts qui s'étalent sur la moitié du territoire, les atouts sont nombreux. Le nouveau plan de décarbonation adopté en février 2019 vise la neutralité carbone d'ici 2050. L'agriculture, qui représente 10% des émissions du pays, est un secteur clé. Explication avec un expert du sujet au cœur d'une exploitation de café neutre en carbone, évidemment.
Vous écoutez, c'est pas du vent sur RFI.
Donc je m'appelle Frédéric Gay, je suis chercheur en agronomie et écophysiologie au CIRAD, le Centre international de recherche agronomique pour le développement.
Alors là, nous sommes à 70 km à peu près de la capitale, près de Turrialba, dans le centre du Costa Rica. Et nous sommes entourés de caféiers, parce que nous sommes dans une plantation de café. Le café, c'est une production fameuse ici.
Alors oui, le Costa Rica compte à peu près 400 000 hectares de plantations de café, un des meilleurs du monde. Donc c'est un café qui se fait essentiellement dans la vallée centrale, en altitude. Hein, le café aime la fraîcheur. Et la particularité de la plantation où on est ici et des plantations au Costa Rica, c'est que ce sont beaucoup de plantations en système agroforestier. C'est-à-dire qu'on combine les plantations de café avec différents types d'arbres par rapport à différents services écosystémiques attendus, comme la protection de la biodiversité. Donc on peut entendre ici qu'il y a quand même pas mal d'oiseaux, la séquestration du carbone dont on va parler, la régulation de l'hydrologie aussi, il y a un rôle important dans les flux d'eau. Et donc ce sont des systèmes qui sont très présents au Costa Rica et en Amérique centrale de manière générale.
Alors ce n'est pas votre spécialité, mais pour expliquer aux auditeurs, quand vous dites un rôle important dans les flux d'eau, vous pouvez nous rappeler quel rôle joue la présence des arbres ?
Alors les arbres, bon, d'une part, par leur croissance, vont stocker donc ça, du carbone. Donc ça, c'est par rapport à l'aspect carbone, donc ils vont avoir un effet sur le climat. Par rapport au flux d'eau, ils vont permettre de favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol, d'éventuellement nettoyer l'eau en prélevant, par exemple, s'il y a une contamination par l'eau est trop riche en nitrate, les arbres vont pouvoir récupérer ce nitrate, cet azote pour leur propre croissance, donc avoir un effet purificateur de l'eau.
Et vous êtes ici pour quantifier les quantités de carbone émises par cette plantation et stockées par cette plantation. Alors on est au pied de ce qu'on appelle une tour à flux. Alors c'est en fait c'est une tour qui fait quoi, 25 mètres de haut avec plein de capteurs dessus. Expliquez-nous comment ça marche.
Alors tout à fait, exactement. Ici, on travaille à l'échelle de la parcelle, pas à l'échelle de la plantation de la finca d'Acares. Donc à l'échelle de cette parcelle, effectivement, on veut établir un bilan du carbone, donc ce qui rentre dans la parcelle par la photosynthèse, donc ce qui est capté par l'écosystème, tout ce qui va être réémis dans l'atmosphère. Et à l'échelle, par exemple, d'une année, on va dire, est-ce que le système a eu un bilan émetteur net ou un bilan de séquestration de carbone dans le système.
Et quel est le bilan total? Et alors, du coup, ici, sur cette parcelle, le bilan est bon, docteur?
Il est bon. En fait, tous les systèmes, les agroécosystèmes, donc les systèmes cultivés, ont généralement un bilan, à l'échelle annuelle, un bilan net de séquestration de carbone. Parce que la photosynthèse est active et qu'il y a accumulation de carbone dans la biomasse végétale, dans la biomasse des arbres, et aussi un certain nombre de retours vers le sol. Et le sol joue un rôle très important.
Oui, mais dans cette exploitation, on met des engrais. Et ça, les engrais, c'est pas très bon pour le bilan carbone.
Tout à fait. Parmi les émissions du système vers l'atmosphère ou dans l'atmosphère, il y a effectivement ces émissions qui sont liées à la fertilisation. Il faut savoir qu'à l'échelle du GIEC, donc le groupement international sur le changement climatique, on estime que quand on apporte un engrais minéral au sol, comme du nitrate ou de l'ammoniac, il y a 1% de la quantité qui est apportée, qui est émise sous forme de protoxyde d'azote, donc du N2O, un gaz qui a un pouvoir d'effet de serre 300 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. Donc il est émis dans des quantités beaucoup moindres, mais avec un effet beaucoup plus fort. Et pour une parcelle de café comme, ou une plantation de café comme celle d'Acarès ici, on estime que 30% des émissions de la finca sont liées à l'utilisation d'engrais, puisque le café est une plante qui est très gourmande en engrais.
Mais dans une plantation de café, notamment comme celle-ci, on fait un bilan carbone en partant du pied du caféier jusqu'au grain torréfié.
Tout à fait. Donc la finca d'Acarès, où on se trouve, elle est inscrite dans le programme NAMA Café, à l'échelle du Costa Rica, qui cherche à faire le bilan carbone des plantations de café, et donc qui intègre, à l'échelle de la plantation, ce qui se passe sur les parcelles de café, et aussi au niveau des bénéficiaux, donc les unités de torréfaction du café. Et ça va prendre en compte, par exemple, les sources d'énergie utilisées pour la torréfaction, pour le séchage des grains, pour le transport. Et donc, dans le cadre du programme NAMA, l'objectif était d'une part de faire la comptabilité de ces sources d'émissions, et ensuite de promouvoir des pratiques pour les limiter. Donc par exemple, recycler tous les bois de coupe, les bois de taille des cafés et les utiliser les brûler dans le bénéficio au lieu d'utiliser des énergies fossiles. Recycler tous les résidus organiques du bénéficio pour faire du compost qu'on va ensuite remettre sur les parcelles. Bien sûr, dans cette comptabilité, à l'échelle de la parcelle, un élément important, c'est la présence des arbres. Donc il y a les personnes en charge de cette question-là à l'échelle de la plantation vont venir régulièrement mesurer les arbres pour connaître leur taux de croissance. Et il y a des équations qui nous permettent ensuite de calculer la quantité de carbone que ça représente. Mais on oublie complètement tout ce qui se passe dans le sol. On a estimé ici sur cette parcelle que la biomasse qui est sous la terre représente 50% de la biomasse totale de la plante. C'est-à-dire qu'il y a autant de biomasse sous le sol qu'au-dessus. Et nous, on a montré que si on tenait compte du bilan de carbone en tenant compte du sol à l'échelle de la plantation serait véritablement carbone neutre. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait le bilan de la plantation à l'échelle d'Acarès, en tenant compte de ce qui se passe au sein des plantations, des engrais, du bénéficio, on montre que la plantation a un bilan net émetteur, c'est-à-dire qu'elle émet une certaine quantité de carbone. Et donc, à l'échelle de la plantation va payer pour compenser ses émissions de carbone. Elle a payé des crédits carbone pour compenser ses émissions carbone et avoir un label neutre en carbone. Nos travaux ont permis de montrer que si on intégrait le sol dans leur calcul, à ce moment-là, la plantation serait véritablement carbone neutre, voire même serait peut-être séquestrante de carbone. C'est-à-dire que son bilan net serait qu'elle séquestrerait du carbone et donc à ce moment-là, elle pourrait revendre des crédits carbone au lieu de payer pour en avoir.
On a entendu une voiture arriver et il y a un monsieur qui se dirige vers nous.
Oui, c'est Jorge Solano qui est ingénieur à la Finca d'Acarès et qui est notamment en charge de la gestion ambientale, donc la gestion de l'environnement dans la finca, donc notamment comptabiliser les arbres qui sont dans la finca, les mesurer pour pouvoir intégrer ces données-là dans le bilan carbone de la plantation.
Finca, c'est le mot espagnol pour la ferme.
Exactement.
Alors on va se dire bonjour, bonjour, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Merci de nous accueillir dans cette plantation.
Ok, perfecto, bienvenidos a Acarès.
Alors, depuis combien de temps la plantation Acarès est engagée dans cette politique de neutralité carbone?
Oui,
depuis 2015, au vu de la quantité d'arbres qu'on avait et la capacité de stocker le carbone.
Empezamos a medir las emisiones que teníamos nosotros.
On a commencé à calculer les émissions, à faire tout un inventaire en termes de véhicules, de fertilisants, tout le processus général dont on a besoin pour une plantation de café.
Oui, parce que ça démarre d'abord par un état des lieux finalement.
Sí, el proceso lo quisimos certificar todo.
Oui, pour calculer tout ça, c'est tout le processus qui est pris en compte depuis le moment où on plante le café jusqu'à la transformation et jusqu'à la vente ensuite.
Alors, quels sont les secteurs ou les moments de production qui émettent le plus de gaz à effet de serre?
Ok, varios factores que tienen bastante.
Les pourcentages les plus élevés se retrouvent dans l'utilisation des fertilisants et l'utilisation des machines agricoles.
Et donc, cela, vous avez réussi à baisser ou vous avez compensé ces émissions?
Pour faire les calculs de la neutralité carbone, on calcule donc les émissions moins la capacité de stockage de la plantation. Et nous, avec la quantité d'arbres qu'on a sur la plantation, on peut stocker 3000 tonnes de carbone et on en produit environ 1100 tonnes. Du coup, on a un bilan plutôt positif.
Et quand vous nous donnez ces chiffres, vous tenez compte de la partie torréfaction du café?
Pero las emisiones son las 1100 toneladas.
Sur les 1100 tonnes de carbone qu'on émet, oui, ça prend bien en compte l'usine de transformation, les fertilisants utilisés, les machines utilisées et le voyage du café pour la vente.
Aujourd'hui, vous êtes donc neutre en carbone, voire même positif. Quelles sont vos autres ambitions pour les années à venir?
On prévoit de maintenir notre certification.
Et continuer à rénover la finca avec variétés résistantes à les principales maladies.
On veut faire plusieurs rénovations pour lutter contre les maladies des caféiers.
Con esto nos ayudaría a disminuir un poco la carga química que tenemos por unidad de área.
On voudrait diminuer les quantités d'intrants chimiques par zone caféière.
Et igual estamos enfocando las renovaciones en un sistema agroforestal.
On est également en train de travailler sur toute une rénovation autour d'un système agroforestier.
Donde podemos mantener un balance entre una buena producción.
Qui nous permettrait de maintenir un bon équilibre entre la production, la certification que nous avons et de la biodiversité de manière générale, oui.
Financièrement, est-ce que vous avez reçu des aides de l'État pour vous inciter à diminuer votre impact?
Sí. En algunos momentos hay algún pago por.
Oui, on a reçu des financements pour paiement pour services environnementaux et également quelques bonus pour certaines activités.
Muchas gracias.
Con gusto.
Frédéric Guay, Roger Solano est reparti dans les parcelles de café. On entend bien à travers son témoignage que voilà, c'est un vrai engagement pour une plantation. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises dans le café qui se lancent comme ça dans la neutralité carbone et globalement à l'échelle nationale? Est-ce que la volonté est là par rapport aux ambitions gouvernementales?
Tout à fait. Dans le cadre du programme Nama Café, si mes souvenirs sont bons, il y avait un objectif d'atteindre la moitié de la surface en café aujourd'hui sous neutralité carbone. Et le programme est en bonne voie pour les atteindre.
D'ici combien de temps?
À l'échelle 2030. Et en fait, dans le cadre notamment du nouveau plan national de décarbonation que le Costa Rica a lancé l'année dernière. On est quasiment à une année. Mais c'est un programme qui va au-delà du cas du café, puisque c'est un programme sur l'ensemble des secteurs d'activité du Costa Rica. Donc il y a 10 axes. Il y a le transport, il y a l'énergie. Il y a aussi donc, un axe important sur l'agriculture et la volonté donc, d'étendre cette expérience qu'il y a eu sur café, avec le Nama Café, mais aussi sur élevage avec le Nama Ganaderia, à d'autres secteurs agricoles, comme la canne à sucre, le riz, les bananes, et d'aller au-delà aussi, donc, notamment en travaillant plus sur le carbone du sol, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Et nous sommes justement actuellement en discussion avec l'Agence française de développement qui a octroyé un prêt au Costa Rica pour appuyer ce plan national de décarbonation. Et nous, chercheurs du CIRAD, nous allons travailler avec nos collègues du Costa Rica pour fournir une assistance technique aux institutions costariciennes pour mettre en place des pratiques agricoles qui permettent d'augmenter, de préserver les stocks de carbone dans les sols.
Donc ça devrait prendre de l'ampleur dans les années à venir?
Tout à fait, dans les 2 ans à venir, et on espère plus loin, puisque ce plan national de décarbonation, il a un horizon à 2030 et à 2050, donc on est vraiment sur le futur. Le Costa Rica est vraiment un pays qui est en avance sur ces questions-là. Pour nous, c'est véritablement un laboratoire pour toutes ces questions de mise en œuvre de politiques environnementales et dans le secteur agricole notamment.
Par contre, on ne touche pas à l'ananas.
Alors c'est un point qui paraît délicat, effectivement, c'est l'ananas, qui est une culture importante au Costa Rica, parce que le Costa Rica est le premier exportateur mondial d'ananas, n'est pas pris en compte pour l'instant dans ce programme de décarbonation. Apparemment, trop d'enjeux financiers et sociaux pour qu'on s'attaque dès maintenant à cette culture.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, avec plaisir.
Nous quittons les champs de caféiers direction le CATIER, un centre de recherche renommé dans le monde entier, dédié à l'agronomie tropicale, avec lequel les chercheurs du CIRAD comme Frédéric Gay travaillent depuis plus de 30 ans. Nous avons rendez-vous avec son directeur dans une ferme expérimentale.
Mi nombre es Mohamed Ibrahim, soy experto en sistemas silvopastoriles.
Je m'appelle Mohamed Ibrahim, je suis le directeur du CATIER et je suis expert en système silvopastoral.
Est-ce que vous pouvez nous présenter le CATIER en quelques mots ?
Le CATIER est un centre agronomico tropical d'investigation et d'enseignance.
Le CATIER est un centre de recherche et d'enseignement en agronomie tropicale.
Tiene tres funciones principales.
Il a trois fonctions principales.
Éducation supérieure.
L'éducation supérieure.
Investigación en agricultura sostenible, agroforestría.
Il y a plusieurs axes de recherche, l'agriculture, l'élevage durable, l'économie environnementale, la biodiversité et l'agroforesterie.
CATI apoyan los países para políticas de agricultura sostenible.
Et le CATI soutient, aide les pays dans leur politique d'agriculture durable.
Alors là, nous sommes dans les champs, on entend derrière nous des animaux, du bétail. Il y a plein de jeunes taureaux qui ont l'air en pleine forme, hein, qui courent dans le champ. Je ne sais pas si c'est l'heure, ils ont l'air assez excités. Parce qu'ici, là où nous nous sommes donné rendez-vous, c'est un lieu d'expérimentation dans le domaine de l'élevage.
Si, aquí es una finca experimental de ganadería.
Oui, ici on est dans une ferme expérimentale, mais c'est aussi un centre de formation pour de l'élevage climato-intelligent.
C'est une tendance qui est en train de se développer dans le pays ?
Oui, c'est effectivement une tendance et le CATI a été le pionnier institutionnel pour promouvoir ce type d'élevage neutre en carbone, ou du moins qui émette peu de carbone.
Le gouvernement a présenté son plan de décarbonation de l'économie il y a un an maintenant. Depuis 2007, hein, Oscar Arias avait déjà parlé de décarbonation de l'économie. Où en est le Costa Rica aujourd'hui ?
Le pays est en train de poser les bases de sa stratégie de politique bas carbone et de mettre en place également sa stratégie de vérification des émissions.
Et buscar financiamiento para apoyar la implementación.
Et le pays cherche également des financements pour implémenter cette stratégie.
L'agriculture représente aujourd'hui 10% des émissions du pays. Est-ce que vous pensez que la neutralité en carbone d'ici 2050 est atteignable ?
Je pense que oui, il y a des bonnes pratiques agricoles qui permettent la réduction des émissions. Il faut aussi dire que les sols permettent de capturer aussi plus de carbone. C'est notre sujet de recherche au CATI avec le CIRAD. Et ça va contribuer à la neutralité carbone. Dans cette ferme laitière, on a réduit de 50% les émissions de méthane.
En faisant comment ?
Meilleure alimentation, meilleure génétique et plus de productivité.
Grâce à une meilleure alimentation, à une meilleure génétique et à plus de productivité.
Alors, il y a déjà eu un plan pour le café, il y a déjà eu un plan pour l'élevage, il y a trois nouveaux plans là, pour le riz, la canne à sucre et la banane qui doivent être neutres en carbone. Comment le CATIER va accompagner le gouvernement pour mettre en place ces différentes filières ?
Le CATIER et le CIRAD vont aider dans la recherche, dans la formation et dans la gestion des connaissances.
Qu'est-ce qui va être le plus difficile dans les années à venir ?
Le plus difficile va être que le secteur privé soutienne le plan de décarbonation.
Et quand vous dites que le secteur privé prenne le pas, ça veut dire quoi ?
Dos Pinos, qui est une coopérative grande.
Quand on prend l'exemple de Dos Pinos, qui est une énorme entreprise laitière, il faudrait qu'il puisse aider ses producteurs à être neutre en carbone.
Alors par exemple, il y a une culture dont on ne parle pas du tout, c'est l'ananas. Là, c'est un gros secteur privé ici au Costa Rica et pour l'instant, ils ne sont pas concernés. Qu'est-ce que vous en pensez ?
La piña est importante. Il y a une plateforme.
Oui, effectivement, l'ananas, c'est important. Il y a une plateforme verte sur l'ananas qui essaye de promouvoir les bonnes pratiques dans ce secteur.
Pour l'instant, la culture d'ananas donne au Costa Rica l'image du pays qui utilise le plus de pesticides au monde.
Yo creo que el gobierno de Costa Rica et le ministre de l'Agriculture.
Je crois que le gouvernement du Costa Rica et particulièrement le ministère de l'Agriculture a un plan pour réduire l'utilisation des pesticides dans le secteur de l'ananas.
Est-ce que vous pensez que le Costa Rica a les moyens de ses ambitions?
No tiene todo el financiamiento.
Je crois qu'il n'a pas effectivement tout le financement nécessaire, mais au moins il a un plan, ce qui va lui permettre de pouvoir chercher les financements nécessaires pour atteindre son objectif.
Muchas gracias.
Augusto. Suerte. Bonjour.
Voy subiendo por un trillo y contemplo el cafetal, vestido como una novia de blanco. Cura sin igual, una novia perfumada con aromas de café, fragancia que huele a campo y a nostalgia del ayer, fragancia que huele a campo y a nostalgia del ayer. El valioso grano de oro, hermoso en el cafetal, el café de Costa Rica es un símbolo nacional. El valioso grano de oro, hermoso en el cafetal, el café de Costa Rica es un símbolo nacional. Las abejas afanosas vuelan todas en tropel, buscando en la flor el néctar para convertirlo en miel. Mientras tanto van llegando el polen de flor en flor, como agentes importantes en la polinización, como agentes importantes en la polinización. El valioso grano de oro, hermoso en el cafetal, el café de Costa Rica es un símbolo nacional. El valioso grano de oro, hermoso en el cafetal, el café de Costa Rica es un símbolo nacional. Y con el tiempo un milagro llegará a suceder, del óvulo fecundado nace un grano de café. Pronto ya estará maduro y hay que irlo a cosechar. Y después de un buen proceso está listo para tomar. Y después de un buen proceso está listo para tomar. El valioso grano de oro, hermoso en el cafetal. El café de Costa Rica es un símbolo nacional. El valioso grano de oro, hermoso en el cafetal. El café de Costa Rica es un símbolo nacional. Sudor de la frente, disfrutemos esta fiesta y aunque estamos en repelo. Uy, qué rica está esa mata, aquí cojo una cajuela. Que me reciba en la calle para echarme un carrerón. Es que tengo que socarle, el corte va lo mejor. Y después de esta breteada a la casa llegaré, a descansar un ratico y a tomarme un buen café. El valioso grano de oro, hermoso en el café. El café de Costa Rica es un símbolo nacional.
¿Dónde va el corte?
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous sommes au Costa Rica. Ce pays d'Amérique centrale, grand comme le Togo, est un véritable laboratoire pour la décarbonation de nos économies, notamment pour inspirer les pays du Sud. Son président, Carlos Alvarado, a pris ses fonctions en 2018 à 38 ans. Dans la lignée de ses prédécesseurs, il a placé la préservation de l'environnement au cœur de sa stratégie. Il nous reçoit dans un salon juste à côté de son bureau au Palais présidentiel. Bonjour Carlos Alvarado, Monsieur le Président.
Bonjour.
Votre pays est cité en exemple au niveau international pour la préservation de son environnement, la stabilité de sa démocratie et la philosophie pour la vida de sa population. Il n'y a pas d'armée dans ce pays depuis 1948 et le budget consacré à l'armée a été réinvesti dans l'éducation et la santé. Depuis 1994, le droit à un environnement sain a été inscrit dans la Constitution. En 2002, le président Abel Pacheco a adopté un moratoire qui interdit l'exploration et l'exploitation pétrolière.
En 40 ans, vous êtes passé de 20% de couverts forestiers à plus de 50%. Un quart du territoire est classé en parc national, si bien que votre pays, qui est grand comme le Togo, finalement, abrite 6% de la biodiversité mondiale. C'est un héritage qui vous oblige à poursuivre dans ce sens de l'histoire ?
Oui, c'est certain. On profite aujourd'hui de décisions prises il y a au moins deux générations. Il y a un proverbe chinois qui dit « La meilleure période pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. » Et nous, nous avons planté de bons arbres depuis plusieurs générations. Nous avons éliminé l'armée et on a mis en place une matrice énergétique propre et renouvelable. Aujourd'hui, 99,9% de notre électricité est propre et renouvelable. Nous avons créé un système de parcs nationaux et instauré des politiques qui nous ont aidés à récupérer le couvert forestier que nous avions perdu. En 40 ans, comme vous le disiez, nous avons récupéré et doublé notre couvert forestier. Donc, notre responsabilité face à cet héritage, ce n'est pas seulement de le protéger, mais de le porter au niveau supérieur. C'est notre responsabilité aujourd'hui, et c'est ce qui est prévu à travers le plan de décarbonation.
Alors, dès 2007, le président Oscar Arias avait annoncé que son pays devait être neutre en carbone d'ici 2021. Bon, 2021, c'était un peu ambitieux, mais ça a lancé la réflexion sur la décarbonation de l'économie. Aujourd'hui, vous souhaitez aller plus loin avec le plan de décarbonation que vous avez présenté il y a un an et qui a été adopté. Ce plan de décarbonation est extrêmement ambitieux, on va le détailler. L'objectif, c'est la neutralité carbone en 2050. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est ? Parce que ça ne veut pas dire plus d'émissions du tout.
Lo que queremos...
Ce qu'on veut, c'est un plan réaliste, d'où le plan de décarbonation. L'objectif est de maintenir et accroître le développement humain, notre qualité de vie, générer de l'emploi et du bien-être. Développer notre société tout en arrêtant l'augmentation des émissions, mais surtout en réduisant les émissions pour devenir en 2050 un pays décarboné. C'est un objectif de 30 ans, mais ça ne veut pas dire qu'on va commencer à travailler en 2050. Pour atteindre cet objectif, on doit s'appuyer sur ce que nous avons aujourd'hui et commencer à travailler dès maintenant. Le plan de décarbonation compte 10 piliers fondamentaux, des actions concrètes dans des secteurs clés pour réussir à maintenir le bien-être humain, la nature, et réduire les émissions de carbone jusqu'à atteindre la décarbonation complète en 2050.
Il y a plusieurs étapes, comme vous venez de le dire. D'ici 2050, il y a le commencement 2018-2022, le virage jusqu'en 2030, puis le déploiement massif jusqu'en 2050, vous l'avez dit, avec 10 secteurs clés. Aujourd'hui, l'agriculture représente 6% de l'activité économique du pays, l'industrie à peu près 20% et les services, notamment le tourisme, 70%. Quels sont les secteurs prioritaires qui sont ciblés par le plan de décarbonation ?
Le plan comprend des piliers dans le secteur des transports, de l'agriculture, de l'industrie, la digitalisation, mais aussi de manière collatérale dans le tourisme, bien qu'il ne constitue pas un pilier du plan en soi. Le tourisme et les services forment un cadre économique pour générer de l'emploi, du bien-être, une société moins intensive dans l'utilisation des ressources naturelles, une société avec plus de connaissances. C'est le bien-être qui va générer le développement.
Alors les transports, aujourd'hui, c'est 60% des émissions de gaz à effet de serre du pays. C'est un gros enjeu, on le voit à Saint-Rosé, ici, où vit plus de la moitié de la population du pays, 2,5 millions d'habitants. Il y a beaucoup d'embouteillages, les gens n'ont pas tellement l'habitude de marcher à pied, de prendre le vélo. Les bus, il y a des réseaux de bus, mais ils sont un petit peu vieux, on va dire, et assez polluants. Donc, vous avez une ambition d'ici 2035, donc en seulement 15 ans. Expliquez-nous quels sont vos projets dans ce domaine.
Il y a des bonnes et des mauvaises choses. Les mauvaises choses, vous les avez mentionnées. Nous avons des véhicules polluants, un mauvais système de transport en commun et beaucoup de choses à améliorer en termes d'infrastructures. Mais nous avons un grand atout. Aujourd'hui, la matrice électrique du Costa Rica est quasiment 100% propre et renouvelable. Donc, notre stratégie comprend trois points. Le premier, construire deux trains électriques. Un train électrique interurbain qui connecte 60% de la population dans les principales villes pour réduire les émissions et améliorer le transport en commun. L'autre est un train de marchandises pour relier la partie Caraïbe où se trouve le port le plus important du pays. Cela va réduire les émissions du transport urbain et de marchandises.
También tenemos que mejorar la logística del transporte de la movilidad.
Nous devons améliorer la logistique des moyens de transport en misant sur l'intermodalité. Ce train sera comme la colonne vertébrale de cette intermodalité. Ce sera un peu, si vous voulez, comme le RER de Paris, en plus petit, mais comme une colonne vertébrale à partir de laquelle d'autres moyens de transport sont possibles, à pied, en vélo, en transport en commun ou en véhicule particulier. On doit changer la hiérarchie des transports. Aujourd'hui, sur les routes du Costa Rica, le moyen de transport le plus important, c'est le véhicule privé. Mais ça devrait être le moins important. On devrait circuler en priorité en transport en commun, à pied, à vélo, et en dernier, en transport privé. Nous devons opérer un virage complet. Ce sera un service rendu à la population. Ces projets de train sont rendus à la phase finale de faisabilité et d'appel d'offres. D'autre part, concernant le transport privé particulier, nous sommes en train d'installer des bornes de recharge pour les voitures électriques. Nous avons baissé les impôts pour l'achat de ces véhicules. Autrement dit, celui qui veut acquérir une voiture est incité à acheter un véhicule électrique. D'autant plus aujourd'hui, l'électricité est moins chère que l'essence. Donc c'est une autre forme d'incitation. Et troisièmement, nous avons une autre stratégie dans le cadre de l'anniversaire du plan de décarbonation. C'est que les transports en commun, en particulier les bus, commencent à changer pour des bus électriques. Avec ces mesures, on cherche à réduire nos émissions, mais nous devons arriver à l'électrification du transport rapidement si on veut atteindre la décarbonation. Aujourd'hui, le Costa Rica peut le faire parce que sa matrice électrique est propre. Et nous travaillons aussi sur l'hydrogène. Étant donné que notre potentiel électrique est hydroélectrique, aujourd'hui, le Costa Rica a la capacité de produire, stocker et distribuer de l'hydrogène propre. Ça, c'est notre stratégie. Et nous cherchons maintenant à accélérer cette transformation.
Mais c'est vrai que c'est une transformation massive parce qu'aujourd'hui, dans le pays, la moyenne de l'âge des voitures, c'est 17 ans et les gens importent de plus en plus de voitures. D'ailleurs, le plus grand importateur de voitures du pays a dit « Mais pour financer ça, on va parler du financement bientôt, mais faudrait relancer l'exploitation pétrolière. » C'est-à-dire qu'il faut faire accepter tous ces changements par la population.
Je crois qu'il y a déjà un changement de mentalité. C'est venu avec un mouvement de changement culturel, en particulier chez la jeune génération, bien que ça reste encore assez peu. Il y a 3 ans, on importait moins de 30 véhicules électriques. Il y a 2 ans, ça dépassait les 100. Et l'année passée, et cette année, on attend des chiffres supérieurs à 1000 voitures électriques importées. Ça veut dire que de plus en plus de personnes s'y intéressent. Mais ce n'est pas tout. Ce que nous voulons également, c'est de l'inclusion à travers le transport. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? On doit avoir un bon service accessible pour que le bus ou le train soit emprunté aussi bien par la femme employée de maison que par le travailleur diplômé, que toutes les personnes puissent voyager en transport en commun parce qu'il s'agit d'un service de bonne qualité et parce que c'est économique. Et nous devons décourager l'idée selon laquelle la voiture est vue non pas seulement comme un moyen de transport, mais aussi, comment dire, comme un statut social. Mais cette vision des choses a déjà changé. Pour les générations précédentes, la vie consistait à avoir une voiture, une maison et un travail. Aujourd'hui, les jeunes générations ne pensent pas tellement à avoir une voiture et une maison. Souvent, ils préfèrent louer. Pour eux, la vie, ce sont les expériences, la découverte de nouveaux lieux, vivre mieux. Et ça, c'est aussi quelque chose qui accentue notre force, à savoir le tourisme, vivre mieux et donner de bonnes expériences.
Alors, autre pilier, vous l'avez dit, l'agriculture, qui représente aujourd'hui 10% des émissions de gaz à effet de serre du pays. Le café et l'élevage se sont déjà lancés dans un plan précédent de décarbonation. Il y a des nouvelles filières, là, dans votre plan, le riz, la canne à sucre, la banane. Comment est-ce que vous allez gérer le problème de la production d'ananas qui fait que le Costa Rica a la réputation d'être le pays qui épand le plus de pesticides par hectare aujourd'hui? Les multinationales qui produisent l'ananas ont eu une sorte d'amnistie fiscale en mai dernier. On ne peut pas dire qu'il y ait une pression forte qui soit mise sur ces entreprises-là pour la préservation de l'environnement.
Tenemos en lo positivo hay cultivos como el café.
Le positif, c'est qu'il y a des cultures comme le café et d'autres, en effet, comme le riz, la banane et la canne à sucre, auxquelles nous intégrons les méthodologies NAMA. D'ailleurs, le café du Costa Rica est le premier NAMA du monde, c'est-à-dire des cafés qui sont adaptés au changement climatique. Un quart de notre production détient cette certification. Notre agriculture doit de plus en plus se concentrer sur la qualité et la valeur ajoutée et être de moins en moins massive. Nous devons nous diriger vers cela. Mais il faut un équilibre et c'est l'un de nos principaux défis face aux monoculture. Parce que, dans plusieurs régions, la principale source d'emploi, c'est la culture de l'ananas. Mais l'impact de cette culture sur l'environnement est très contestable. Avant, des décennies auparavant, le café et la banane étaient néfastes pour l'environnement. Mais grâce à l'innovation et aux technologies, les efforts se sont accrus en matière d'environnement. Et c'est ce que nous devons faire pour l'ananas, tout en proposant d'autres options, avec de la valeur ajoutée, afin qu'il n'y ait pas seulement de la monoculture. Monoculture qui est un frein pour le tourisme ou met en danger la biodiversité.
Eso es parte de la transformación. Y en el caso particular de los pesticidas o de los agroquímicos.
Cela fait partie de la transition. Et dans le cas particulier des pesticides, des produits phytosanitaires, le problème est lié à la bureaucratie. Le problème bureaucratique, qu'on appelle « red tape » en anglais, ou la bureaucratie mécaniste, a fait que nous avons échoué à enregistrer de nouvelles molécules. Nous avons de très vieilles molécules et un manque de formation. Le cadre avec lequel nous travaillons est donc mauvais parce que nous n'avons pas pu répertorier de nouvelles molécules moins polluantes. Le gouvernement est en train de se battre pour accélérer cette procédure d'enregistrement afin de travailler avec de meilleurs produits avec un impact moindre. Aujourd'hui, nous redoublons d'efforts. Même moi, en tant que président, j'effectue un suivi chaque semaine pour voir comment avance cette procédure d'enregistrement. Parce que les pesticides affectent l'environnement et affectent probablement l'humain et le commerce. Nous devons donc régler ce problème. De même, ne pas avoir de répertoire des molécules fait que, premièrement, les agriculteurs utilisent de vieilles molécules plus polluantes. Deuxièmement, souvent les plantes résistent, donc ils appliquent plus de pesticides. Ensuite, il se peut qu'ils utilisent la bonne molécule, mais par manque de connaissances, ils en appliquent tout de même plus qu'il ne faut. Et enfin, ils se fournissent sur d'autres marchés et importent des molécules qui ne sont plus autorisées. Il y a donc divers problèmes, mais nous travaillons avec le gouvernement afin de résoudre ces problèmes que nous avons dans le secteur agricole.
Alors la devise du Costa Rica, c'est « personne laissé derrière ». Aujourd'hui, il y a 8% de la population qui est au chômage. Est-ce que vous misez sur le plan de décarbonation pour créer des emplois ?
Bueno, actualmente tenemos... La última medición nos da un 12% de desempleo, lo cual es.
Les derniers chiffres montrent que nous avons un taux de chômage de 12%, ce qui constitue un de nos principaux problèmes aujourd'hui. Et cela est dû en grande partie, il faut le dire, à la transition des dernières décennies qui a laissé des personnes derrière, surtout en matière d'éducation et dans certaines régions en matière de création d'emplois. Le Costa Rica est un petit pays, mais qui s'est spécialisé dans les technologies, la valeur ajoutée, les services ou le tourisme. Et ça a été une réussite. Mais dans les lieux où cette transition ne s'est pas opérée, ça a généré de l'exclusion. Des gens sont restés derrière. On peut distinguer deux enjeux. Premièrement, et je crois qu'au Costa Rica, comme dans de nombreux pays, par exemple en Europe, beaucoup de personnes pensent que le changement climatique ou la décarbonation sont des sujets snobs ou des préoccupations de personnes qui n'ont pas de problème et n'ont que ça à penser. Donc certains se demandent pourquoi pensent-ils à la décarbonation et pas au chômage, ce qui nous préoccupe nous. Le sujet du changement climatique n'est plus un sujet environnemental. On parle d'une transformation intégrale, sociale, politique et économique.
Il y a des exemples positifs. Quando Costa Rica empezó a crear parques nacionales y a reforestar.
Plusieurs exemples. Quand le Costa Rica a commencé à créer des parcs nationaux et à reforester, beaucoup ont pensé que c'était une folie, que ces terres étaient faites pour cultiver et que l'économie allait s'effondrer. Mais il s'est passé le contraire. Protéger ces terres a généré du tourisme, une augmentation des espèces et de la biodiversité, et justement une croissance économique, du bien-être dans un secteur propre. C'est un très bon exemple qui montre que ces transformations ne détruisent pas, mais créent au contraire de meilleures conditions de vie. Mais le plus difficile, c'est la transition, parce qu'il y a beaucoup de scepticisme. Va-t-on réussir ou non? Et c'est cela qui préoccupe les gens. Nous nous devons donc d'avancer en s'appuyant sur des données, avec de l'optimisme et des résultats. On a un autre exemple avec le café. Dans les années 80-90, le café était le principal produit costaricien. Mais les marchés internationaux s'effondraient. Le Costa Rica a opté pour du café de haute qualité. Et aujourd'hui, le pays détient 2% de la production mondiale, mais ne se réfère pas au prix international du café. Le café costaricien se vend plus cher parce que c'est une production de haute qualité. Et nous devons appliquer cette logique à d'autres secteurs, d'où les politiques de décarbonation et un nouveau modèle économique.
Muchas gracias. Pura vida.
Pura vida. Merci beaucoup. Je vous en prie.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous parlons des solutions pour atteindre la neutralité carbone pour un pays d'ici 2050, c'est-à-dire non seulement diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, mais en plus compenser totalement celles qui demeurent. L'agriculture est un formidable secteur pour cela. Bonjour Claudine Fouchereau.
Bonjour.
Vous êtes chef de projet agriculture à l'Institut de l'économie pour le climat. Alors tout d'abord, comment est-ce que vous réagissez à ce reportage que nous venons d'entendre, qui a été réalisé au Costa Rica?
Alors, je trouve ce reportage vraiment, vraiment enthousiasmant, parce qu'on voit que des acteurs se mobilisent en fait pour trouver des solutions et les mettre en œuvre pour atteindre cet objectif de neutralité carbone qui, je le rappelle, a été fixé par l'accord de Paris.
Donc, en effet, il y a des solutions qui existent. On l'entend dans le reportage, elles commencent à se mettre en place. Et on n'y arrivera pas si, parce qu'on parle souvent du secteur énergétique, etc., mais si on oublie le secteur agricole, on n'y arrivera pas.
Effectivement, il ne faut pas oublier que le secteur agricole, ça représente quand même un gros bout des émissions au niveau mondial. Alors, si on prend en compte secteur agricole et alimentation, en comprenant aussi tout le transport, la transformation des aliments, c'est quand même 30% des émissions mondiales. Donc, on voit tout de suite que sans ce secteur, on ne pourra jamais atteindre l'objectif de neutralité. Et d'autant plus que ce secteur est quand même assez intéressant parce qu'il a plusieurs voies pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors, il y a d'une part réduire ses propres émissions, mais c'est aussi avec le secteur forestier, un des seuls secteurs qui est capable de séquestrer du carbone. Et troisième voie aussi que ce secteur présente, c'est qu'il peut aider à décarboner les autres secteurs économiques en produisant de l'énergie verte. Quand on installe un méthaniseur, par exemple, dans les exploitations agricoles, on produit du biométhane qui va permettre de chauffer les bâtiments ou de venir en substitution de l'énergie fossile.
Alors, selon l'ONU, il y a 66 pays, 10 régions, 102 villes et 93 entreprises qui ont annoncé leur ambition de parvenir à un bilan de zéro émission de gaz à effet de serre d'ici le milieu du siècle. Beaucoup misent sur l'agriculture. Alors, cela dit, que ce soit l'agriculture ou d'autres secteurs, ça nécessite, hein, on l'a entendu dans le reportage, des financements. Alors, quelles sont les solutions pour trouver des financements pour financer ces plans neutralité carbone ?
Alors effectivement, cette transition vers un monde décarboné ne va pas se faire tout seul, elle présente un coût. Et une des façons de financer ces projets bas carbone, c'est de finalement rémunérer le service rendu, rémunérer par exemple la séquestration carbone dans les sols. Et pour ça, il faut être capable de le mesurer, d'apporter les garanties qu'il y a bien eu réduction d'émissions, qu'il y a bien eu séquestration carbone. Et c'est tout l'enjeu des cadres de certification carbone qui se sont développés au niveau international. Les plus connus, c'est Gold Standard et Vera. Et plus récemment, en France, avec la création du label bas carbone piloté par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Et derrière, en fait, c'est des entreprises qui vont venir acheter des crédits carbone issus de ces projets. Ça peut être, par exemple, dans le cadre de leur compensation. Il y a des entreprises qui cherchent à afficher une neutralité carbone et qui, du coup, vont réduire au maximum leurs émissions et compenser la partie résiduelle qu'ils ne peuvent pas réduire en venant financer, du coup, ces projets bas carbone certifiés.
Alors, il y a en France quelques centaines de pionniers hein, qui se sont engagés aussi pour décrocher le label bas carbone qui a été créé tout récemment par le ministère de la Transition écologique. C'est quelque chose qui prend de l'ampleur ?
Oui, alors c'est effectivement tout nouveau. Hein. Il vient de se créer, mais il y a déjà près de 400 agriculteurs qui sont engagés et des nouvelles méthodes. Alors pour l'instant, c'est très focalisé élevage bovin. Donc les premiers agriculteurs qui s'engagent, c'est des éleveurs dans des exploitations bovines. Mais là, la démarche fait des petits et donc il va bientôt pouvoir y avoir des méthodes en grande culture, des projets aussi de plantation de haies et de méthanisation aussi comme ce qu'on a évoqué précédemment.
Alors 400, ça fait peu hein, sur un total en France de 500 000 exploitations, mais c'est un début, on va dire.
C'est le démarrage. C'est le démarrage. Après, le label bas carbone pourra pas tout faire. Hein. C'est pas le seul outil pour atteindre les objectifs de neutralité carbone et pour financer ces projets-là. Voilà. Mais c'est un début. On espère bien que ça fera des petits et que ça fasse boule de neige.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que la compensation carbone ne doit être qu'un outil de dernier recours pour les émissions dites incompressibles, parce que sinon, les émissions de gaz à effet de serre elles pourraient continuer à croître encore longtemps ?
Oui, complètement. Enfin, en tout cas, il ne faut pas que la compensation empêche les entreprises de faire le maximum pour réduire chez elles. Les deux enjeux sont vraiment importants. Donc, la priorité, ça reste quand même d'avoir des activités qui sont compatibles avec un monde de degrés, avec un monde zéro émission nette. Mais il ne faut pas que ça empêche non plus à ces entreprises de venir financer ces projets. Les deux voies sont importantes, réduire chez soi et aider à financer des projets en dehors de son périmètre, parce que ce n'est pas les pouvoirs publics, ce n'est pas les subventions qui pourront financer l'ensemble de ces projets de décarbonation. On a vraiment besoin du secteur privé pour apporter aussi une part de financement vers ces projets.
On a bien compris. Merci beaucoup, Claudine Fouchereau.
Merci à vous.
Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux où vous trouverez des bonus de nos invités en vidéo. Prenez soin de vous et des vôtres et à la semaine prochaine, même planète, même heure. Géopolitique.